Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Conditions pénibles pour les déplacés vivant dans les camps situés à l'ouest de Goma. En effet, depuis deux mois, des milliers de ménages quittent les camps saturés pour s'installer dans un nouveau site dans le Nyiragongo. Médecins sans frontières parle d'environ 100 000 personnes. Du coup, les besoins restent immenses, affirme MSF. Coup d'envoi ce lundi des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024, dont la dissertation sur toute l'étendue de la RDC pour Béniville et territoires. Plus de 50 000 candidats sont attendus, dont près de 2 600 filles. Affaire de viol et mariage forcé présumé contre le pasteur Pierre Kasambakana. Le procès est en cours. Entre-temps, la défense du pasteur rejette en bloc les accusations portées par la Lisadel sur son client. Pour en parler, nous recevons Maître Prince Octave Lutumba, l'avocat du prévenu. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par le Nord Kivu. Les déplacés vivant dans les camps situés à l'ouest de la ville de Goma risquent non seulement les bombardements ennemis, mais aussi ces camps sont saturés et les conditions de vie y sont pénibles. C'est pour trouver de l'espace et espérer une prise en charge humanitaire que depuis deux mois, des milliers de ménages quittent les camps saturés de Rusayo 1 et 2, de Lushagala, Bulengo et d'autres sites informels pour s'installer dans un nouveau site Rusayo 3 dans le territoire de Nyiragongo. En moins d'un mois, le nombre des ménages sur ce nouveau site est passé de près de 7 000 à 23 000 ménages, soit autour de 100 000 personnes, selon l'organisation Médecins sans frontières, MSF. Cette organisation vient d'installer un poste de santé avancé en faveur de ces déplacés, mais les besoins restent immenses. C'est comme l'a constaté Rosalie Zawadi lors de sa visite sur place.
Au poste de santé avancée de Rusayo 3, une aide-soignante reçoit un enfant touché par la malnutrition. Des dizaines de mères affluent chaque jour avec leurs enfants malnutris pour une prise en charge. Le docteur Jean-Paul Kassolois, responsable des activités des MSF dans les sites de Rusayo 3, explique les services offerts aux déplacés.
C'est d'abord la prise en charge des enfants de 0 à 15 ans. Et cette prise en charge des enfants de 0 à 15 ans, ça comprend toutes les maladies. Ça comprend aussi la recherche active de la malnutrition des enfants de 6 mois à 59 mois au niveau des communautés. Minimum depuis cette semaine, nous commençons à recevoir entre 20 à 30 enfants malnutris. Nous avons aussi la prise en charge aussi de santé de la femme.
Médecins sans frontières a récemment distribué du matériel des premières nécessités constitué des bâches, couvertures et ustensiles de cuisine à près de 7000 ménages de ces sites. Chaque jour, au moins 100 nouveaux ménages déplacés en situation difficile arrivent ici, selon les membres du comité des déplacés. L'organisation MSF lance un appel urgent à la solidarité pour répondre aux besoins criants de ces familles déplacées et leur offrir un minimum de dignité et d'espoir dans ces conditions de vie extrêmement précaires. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, le conflit intercommunautaire Mbole-Lengola continue à endeuiller plusieurs familles dans la commune urbano-rurale de Lubunga. Au moins 6 personnes ont été assassinées par des assaillants ces 3 derniers jours. Excédées par ce conflit sanglant, les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani dénoncent avec véhémence cette situation. Elles l'ont fait savoir dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État. Samedi, elles ont rencontré l'évêque auxiliaire de Kisangani, Monseigneur Léonard Njadi Njate, pour solliciter son accompagnement. Le condensé de leur lettre avec Jacques Moukonkole.
Dans leur lettre au chef de l'État, les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani, indiquent que le mode opératoire des assaillants est non seulement haineux, mais aussi qu'il n'est pas habituel dans cette province. Ce conflit date depuis une année et a provoqué des déplacements massifs des populations. Au moins 18 000 personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps de déplacés à Kisangani. D'autres sont signalés dans des familles d'accueil et au moins 500 personnes ont perdu la vie. Les femmes de la Tchopo accusent le ministre de l'Intérieur de ne pas informer objectivement ni les conseils des ministres, ni encore moins le président de la République. Elles recourent directement au chef de l'État en sa qualité de garant de la nation pour que ces fléaux soient éradiqués. Ainsi, elles lui demandent de suspendre les activités de Cap Congo, de diligenter une enquête sur les commanditaires de ces conflits et d'interpeller ceux qui en sont cités. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Lancement ce lundi des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2023-2024, dont la dissertation sur toute l'étendue de la RDC pour Bénéville et territoire. Plus de 5000 candidats, dont près de 2600 filles, sont attendus pour ces épreuves. Par ailleurs, dans le territoire de Béni, les élèves dont les écoles sont situées sur l'axe Kianza-Bamangina sont appelés à reprendre les cours dès ce lundi 6 mai. L'appel est lancé par le sous-préfet d'intérimaire de Oicha, Enoch Moussouba. Les activités ont été suspendues à la suite des attaques des EDF. Les autorités ayant renforcé la présence militaire, le sous-préfet intérimaire de Oicha estime que les conditions sont réunies pour la reprise des enseignements. Enoch Moussoubao le dit à Blaise Makassi.
Nous avons été obligés d'aller prendre langue avec l'administrateur militaire à ce stade du territoire de Béni, afin que nous nous partagions des idées autour d'une possibilité de la reprise des activités scolaires dans cet axe. La décision arrêtée est que les cours puissent reprendre à Mangina et sous Aviro. Il a été constaté que seuls les finalistes ont répondu à l'appel de l'autorité communale et en celui des autorités scolaire. Nous profitons à ce micro à appeler les élèves à reprendre le chemin de l'école car les autorités ont déjà pris des mesures de sécurité afin de protéger nos élèves dans les différentes écoles. Mais pour les élèves étudiants dans les écoles de Mangodoum, ceux-ci sont appelés à étudier dans les écoles du centre Mangina.
Direction la province du Kwilu. Plus de 200 accouchements précoces ont été enregistrés au premier trimestre de l'année 2024, soit 14%. Ces chiffres ont été révélés par le coordonnateur provincial du Programme national de santé des adolescents et jeunes, PNSA. Dr Titine Toti l'a dit à l'occasion d'une séance de sensibilisation contre les exploitations et abus sexuels, ainsi que les grossesses précoces. Sensibilisation en faveur des jeunes et adolescents venus des différentes écoles organisées samedi en collaboration avec une ONG locale, l'activité s'est tenue à Bandunduville. Irène Mboma, reportage.
Cette activité de sensibilisation qui s'est réalisée avec l'appui financier de l'UNFPA rentre dans le cadre du projet PERS qui consiste à sensibiliser les jeunes et les adolescents sur les exploitations et abus sexuels, les mariages et grossesses précoces, ainsi que sur les violences basées sur les genres. Docteur Titine Toti est le coordonnateur provincial du Programme national de la santé des adolescents et des jeunes, PENSA au Kwilu.
Nous sommes partis d'un constat selon lequel seulement pour le premier trimestre 2024, presque 14% d'accouchements, 226 accouchements enregistrés avec les adolescents. Ceci a tiqué l'autorité provinciale, raison pour laquelle nous voulions informer les enfants à ne pas se livrer à des comportements qui peuvent amener à des grossesses précoces et non désirées.
Docteur Serge Kapalazola, l'un des intervenants, revient sur la définition de la grossesse précoce.
C'est une grossesse que la fille en a avant l'âge de 20 ans. Elle n'est pas mature physiologiquement, psychologiquement et physiquement. Si on ne fait pas attention, ça va se solder par plusieurs conséquences pendant l'accouchement.
Pour sa part, Damien Bungu, coordonnateur de l'ONG Kanaki au Kwilu, précise que ce genre d'activités vont s'élargir aussi auprès des autres jeunes et adolescents de la province. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, signalant la remise vendredi de deux ambulances médicalisées aux zones de santé de la Mouya à Mbujimayi et de Miabi, dont du gouvernement central. La cérémonie a été présidée au gouvernorat de province du Kasaï Oriental par le ministre provincial de la Santé, Dr Augustin Kaimbe, a prodigué des conseils aux gestionnaires de ces engins pour leur bon usage. Il a en outre insisté pour que l'ambulance du territoire de Miabi soit gérée par la zone de santé. On écoute le ministre provincial de la Santé du Kasaï Oriental au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
La province du Kasaï oriental a perdu beaucoup de vies humaines par manque de moyens de locomotion pour déplacer les malades dans tous les quatre coins de cette province. Je demande aux uns aux autres, en particulier le médecin chef de zone de santé de la Mouya, le médecin chef de zone de santé de Miabi, d'en utiliser en bonne et due forme. Je souligne pour l'ambulance de Miabi. L'ambulance revient au territoire sous la gestion de la zone de santé. Je n'accepterai jamais entendre que cette ambulance est bloquée dans un coin. Miabi est composé de quatre secteur, il y a Tchijiba, il y a des centres de santé très éloignés où on a dit enregistrer des décès maternels par manque de moyens d'évacuation. Chilundu, éloigné de plusieurs kilomètres de l'hôpital général de référence de Miabi. Des secteurs de Movunkacha où la population de Bakwasumba se déplace à une distance de 54 kilomètres pour arriver à l'hôpital général de référence. Partout là-bas, à Katende, on a enregistré plusieurs fois les décès maternels par manque de moyens de transport pour évacuer les malades dans un état grave.
Sud Kivu, le médecin chef de zone de santé de Ruzizi dans le territoire d'Uvira, salue la réception technique du nouveau bâtiment flambant neuf, fruit du programme de développement local des 145 territoires du gouvernement mis en œuvre par le PNUD. La cérémonie de réception de cette infrastructure sanitaire a eu lieu dans la cité de Sangé, en présence des autorités politico-administratives, des notables, des acteurs de la société civile et d'une foule nombreuse. Notons que ce centre de santé a été construit par l'entreprise Procom, et selon le représentant du PNUD et coordonnateur du PDL 145 territoire Sud Kivu, ce bâtiment sera remis plutôt à la communauté locale après son équipement total qui interviendra incessamment. Rendons-nous en Ituri. L'usine de production et de traitement de l'or de la société minière de Kulomoto Sokimo est opérationnelle depuis vendredi à Nizi. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. C'est grâce à l'acquisition des nouveaux équipements et engins réceptionnés par le directeur général de cette entreprise. Selon l'équipe syndicale, ce projet inauguré jeudi permet de relancer les activités de la Sokimo après plusieurs années de léthargie. Isaac Remoyope.
La Sokimo a acquis de nouveaux engins de production de minerais et des équipements pour l'usine moderne de traitement de l'or ainsi que les laboratoires chimiques. Certains bâtiments pour ces projets qui étaient déjà vétustes ont été également réhabilités par les fonds propres de l'entreprise, a déclaré le directeur général de la Sokimo. Il annonce la production des premiers lingots d'or dans quelques mois et sollicite l'appui du gouvernement central. Pististo Kole Bonongo.
C'est un grand jour pour la Sokimo car ça fait 3 décennies depuis les années 90 que la Sokimo ait ses propres engins. Pour la production d'un premier lingot d'or, nous l'attendons dans quelques jours qui arrivent. L'attente de la Sokimo pour ce nouveau gouvernement, c'est de mettre sur la table notre projet de plan de relance.
Le syndicat des travailleurs de la Sokimo salue cette action du nouveau comité de gestion de cette entreprise qui permet la relance des activités mais aussi de résorber le chômage des jeunes à risque dans cette province en guerre. Kasongolo Rima.
C'est grâce à la relance, c'est grâce à la production de l'or à Nizi que même l'État congolais va donner l'emploi à la jeunesse à travers la Sokimo.
Signalons que les agents de cette entreprise acquisent plusieurs mois d'arriérés des salaires. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons à Bunia. Certains vendeurs au marché central et autres artères de la ville et même des habitants jettent des immondices sur la chaussée et dans des caniveaux transformés en poubelles publiques. Des nombreux commerçants qui vendent leurs marchandises près de ces ordures et leurs clients s'en plaignent. C'est un reportage de Lydia Tchombe.
En parcourant les artères de la ville de Bunia, on observe des déchets domestiques et de maisons de commerce jetés sur la chaussée et dans les caniveaux. Pire encore, au marché central de Bunia, où les déchets traînent pendant même une semaine sur la route principale en attendant que les véhicules viennent les évacuer à la périphérie de la ville. Ces immondices dégagent une odeur insupportable aux vendeurs et clients qui fréquentent le marché. Ils lancent un appel aux autorités. Si c'est au boulevard, en tout cas je regrette si les chefs ne voient pas comme les gens viennent jeter les déchets au boulevard. Au juste, il n'y a pas une poubelle. Il faut que les autorités trouvent une solution pour nous. L'ONG Ville Propre de que le processus d'installation des poubelles publiques et d'une brigade de sécurité de ces installations est en cours dans la ville de Bunia. C'est là envie de résoudre ce problème en collaboration avec les autorités municipales. Maki Diédoné.
On a une mauvaise expérience avec la poubelle dans cette ville. On n'a pas une culture d'hygiène publique ville. Et ça ne nous décourage pas encore. On a déjà échangé avec la mairie, avec certains partenaires partenaires pour trouver un moyen sécurisant pour que nous ayons aussi notre brigade d'assainissement. Cette brigade aura comme tâche de surveiller le mouvement des déchets dans la ville.
Pour cette ONG, il y a nécessité de sensibiliser la population à développer la culture des salubrités publiques. Lydia Tchombe, Radio Okapi.
Actualité internationale. La présidentielle tchadienne a lieu aujourd'hui 6 mai. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années. Ce, après 3 ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby, un scrutin auquel participe son fils Mahamat Idriss Déby qui a dirigé cette transition.
L'invité.
La défense du pasteur Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive de Lingwala à Kinshasa, rejette en bloc les accusations portées par la Lisadel sur son client. Partie civile au procès de viol et mariage forcé présumé contre Kasambakana, la Lisadel accuse ce pasteur devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe de viol et de mariage forcé avec une présumée mineure. Le procès qui a repris depuis le 29 avril va se poursuivre le 13 mai prochain avec des plaidoiries prévues. Aujourd'hui, la partie défenderesse réagit. Selon l'avocat de l'accusé, le viol n'a pas été retenu par le parquet comme une des préventions et il n'y a jamais eu mariage forcé entre la fille supposée mineure et le pasteur. Radio Kapi reçoit ainsi l'avocat du prévenu, Maître Prince Octave Lutumba. Il réagit aux accusations de la Lisadel dans cet entretien avec Jeff Ngoy.
Maître Prince Octave Lutumba, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dieff.
Nous assistons à la reprise du procès de viol présumé sur une mineure supposée qui opposerait Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive de Lingwala, à la Lisadel, qui s'est constituée partie civile et au ministère public. Votre client est accusé des infractions de viol et mariage forcé présumé. Comment la partie défenderesse réagit aux accusations portées contre son client?
Il faut tout de suite ici rectifier une chose, que mon client, et ce qu'il a compris, ne sont pas nullement poursuivis pour viol sur mineur. Cette prévention, elle est dans l'imaginaire de ceux qui m'ont précédé sur votre micro, qui sont venus pour débiter de mensonges. Le parquet qui poursuit mon client n'a pas retenu le viol. L'avocat d'Elisadel n'a pas dit la vérité. Donc, mon client est poursuivi pour mariage forcé. Voilà la prévention.
Et le viol vient faire quoi parmi les 4 préventions? Qui est poursuivi pour viol dans cette affaire? Qui est poursuivi pour viol?
Non, il n'y a aucune prévention de viol. Personne n'est poursuivi pour viol.
Parlons du mariage forcé. Est-ce qu'il est proscrit par la loi congolaise ou bien il est autorisé?
Bon, je ne voulais pas déjà ici infléchir l'issue du procès parce que nous aurons le temps de démontrer devant le tribunal qu'est-ce qu'il faut entendre par mariage et a fortiori par mariage forcé. Mais dans l'espèce, je peux déjà d'ores et déjà vous dire qu'il n'y a pas eu mariage, parce que se marier signifie accomplir les conditions de fond et de forme.
Donc, votre client, Pierre Kasambakana, il vit en concubinage avec la fille?
Même pas. N'a jamais vécu avec cette fille.
Mais comment il déclare que c'est sa femme?
Je vous dis qu'il n'y a pas eu mariage.
Elle lui a été donnée en cadeau
tout
par
ça, ça
son beau-père.
Tout ça, ça va se discuter devant le juge. C'est une fille qui lui a été présentée en cours de route quand il quittait le Bas-Congo. Tout ce qui a suivi comme boucan derrière, c'est,
et qui lui
c'est
a
simplement
présenté
du sensationnel.
Cette fille lui a été présentée par qui?
Par son père.
Elle peut avoir quel âge?
Oui, c'est ce qui est important de savoir. Parce que j'ai entendu l'avocat d'Elisadel qui est venu sur vos antennes soutenir. Non, écoutez, nous avons produit des bulletins scolaires. Est-ce que l'âge de la personne s'établit par des bulletins scolaires? La loi est claire là-dessus.
Mais l'acte de naissance, il semble qu'il a été antidaté. Et c'est lui qui l'a établi,
qui
serait passé aux aveux, selon la Lisadel.
Antidaté. C'est le pasteur. Il faut se poser la question de savoir qui a antidaté. Le pasteur n'a jamais été chercher l'acte de naissance de la fille.
Vous êtes en train de disculper votre client de toutes les accusations?
Non. Vous savez, en matière pénale, hein, ça ne sert à rien de venir sur les ondes de la radio et se mettre à raconter des choses. En matière pénale, il faut disposer de preuves et de preuves solides parce que la loi pénale est de stricte interprétation. Ça ne sert à rien de venir raconter des choses dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Donc, c'est une fuite en avant de Lisadel.
Revenons-en au fait même. Puisque vous maîtrisez les tenants et les aboutissants, comme vous le dites, comment on en est arrivé à ces procès?
Oui, parce qu'on en est arrivé là parce qu'il y a des gens qui qui ont voulu qu'on en arrive là. C'est, on ne peut pas partir sur fond des rumeurs infondées pour monter un procès de toutes pièces. Ce sont des rumeurs. On a parlé de la minorité. Mais qui avait la preuve de la majorité ou de la minorité si ce n'est pas le parent, le géniteur?
Vous avez dit que la fille a été présentée au passeur en cours de route. C'est passé en cours de route, comme vous l'avez dit.
La fille lui a présenté la fille.
En cours de route.
En tout cas, lui quittait déjà, parce que l'ex-pasteur n'habite pas le Bas-Congo. Hein. Il était en voyage missionnaire. Il a fini son voyage. Il devait rentrer, partir de Mwanda pour entrer vers Matadi. Et donc, il a eu un arrêt lors d'une cérémonie. Les gens se sont retrouvés. Et c'est là que le père de l'enfant s'est présenté au pasteur et lui a présenté sa fille. Où il a déclaré devant tout le monde que sa fille est majeure. Et donc, le pasteur continuant son chemin pour Kinshasa.
Et votre client, il dit devant les juges que c'était un cadeau qui lui a été offert. En guise de quoi?
Oui, c'est comme ça qu'il a estimé, parce qu'il n'a jamais fait de démarche.
Vous qui êtes le professionnel de la loi, trouvez-vous cela normal? En droit, c'est faisable aussi comme ça?
Je vous ai dit que...
On peut vous offrir une fille comme ça en cadeau?
D'abord, il faut noter que la personne humaine ne peut pas faire l'objet d'une donation. Une personne humaine n'est pas dans le commerce. Et donc, nous ne pouvons pas prendre ça comme étant une donation. Donc, on ne peut pas faire cadeau d'une personne. Ce n'est pas parce que les gens le disent que cela est possible.
Mais votre client a accepté ce cadeau. Lui-même a dit que c'était un cadeau.
Il est en train de rentrer à Kinshasa. Il n'est même pas encore arrivé à Kinshasa qu'on a commencé à le poursuivre sur les réseaux sociaux. À telle enseigne qu'il dit ne même pas connaître la fille si on la lui présente aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas eu le temps de l'aborder, il n'a pas eu le temps de parler avec elle.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était là notre invité, l'avocat du prévenu, le pasteur Pierre Kassambakana. Maître Prince Octave Lutumba, répondez aux questions de Jeff Ngoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.